Chapitre 7e, les fantômes vivants. Mon week-end finissait ce soir. Je dus, sans que d'autres événements le vinssent corser, rentrer à Paris. Je repris mon travail au journal. De quelques jours, je n'eus pas de nouvelles de mon ami Martin Numa, ni de personne de sa brigade. Donc, tout allait bien, tout était tranquille. Cela ne devait pas durer longtemps. En défaisant mon courrier ce matin, je trouvai une lettre écrite en petite ronde, très correcte, très lisible, que je ne reconnus pas sur le moment. Elle me disait « Mon cher ami, prenez un taxi entre 11h30 et midi, et trouvez-vous, après avoir déjeuné, dans le jardin du Pisquoir qui s'étend derrière Notre-Dame. Fumez là votre cigare tranquillement, faites des vers, si vous êtes en veine de poésie, bâillez aux corneilles si vous n'avez pas d'idées poétiques. Enfin, attendez qu'on vous arrache à votre solitude, et ne vous étonnez de rien. » La lettre pour signature portait simplement moi-même. Je me mis à rire car j'avais reconnu une missive de mon ami Martin Numa. Je m'habillai donc pour sortir, me fis servir à déjeuner tout de suite, puis peu après je me jetai dans un taxi et je me faisais conduire près d'un coin de rue, près du pont Louis-Philippe. Je pensais que Martin Numa, en me recommandant de prendre une voiture, ne voulait pas que l'on pût me voir ou me pister. Il me recommandait, c'était certain, de m'arranger de façon à ne pas donner l'éveil à qui que ce fût de la course que j'allais faire. Je commençais à connaître les stratagèmes en usage dans son école, et je devais les employer également. Donc, descendu de voiture, je me perdis dans un carrefour, je m'engageai dans une rue, puis dans une autre, et ayant ensuite tourné dans une de ces ruelles qui ont l'air de coupe-gorge, fréquente dans ce quartier, je débouchai sur le pont. Enfin, après d'autres détours, je gagnai le petit square moyenâgeux que Notre-Dame m'abrite. Je m'assis sur un banc et commençai à fumer, comme il m'était prescrit, le cigare de la digestion. J'étais là depuis quelques instants, ne faisant pas de verre naturellement, ne bâillant pas aux corneilles, mais tout bonnement fumant mon cigare, sans autre préoccupation que celle de savourer un bon havane en plein air, comme le bourgeois le plus paisible du monde, qui ne nourrit aucune arrière-pensée tragique et n'entre dans aucune combinaison dramatique, dans aucune machination. Vers 7 heures, dans tous les squares de Paris, viennent, portant dans du papier, dans des paniers, les ouvriers des usines voisines déjeuner sur les bancs et se donner l'illusion d'un repas champêtre. Ce sont de petites parties de plaisir pour ces braves gens, et c'est un des spectacles les plus amusants, les plus caractéristiques de la capitale que l'on peut s'offrir tous les jours. Il va sans dire que le square de Notre-Dame vit bientôt tous les bancs se garnir de gens se hâtant de choisir leur coin pour déjeuner en plein air. Près de moi, un brave homme, coiffé d'une casquette grasse, une longue blouse pleine de taches d'acide, employé sans doute dans une usine de produits chimiques située sur le quai voisin, vint prendre place. « Pardon, monsieur, » dit-il en touchant sa casquette. « Si ça ne vous dérange pas, je ferai mon Balthazar à côté de vous. » Et en riant, il ajouta « Quant à moi, monsieur, la fumée ne me gêne pas. » Je lui dis qu'il pouvait à son aise déjeuner là et que moi-même, ayant déjeuné, je faisais ma digestion en plein air, fumant mon cigare et attendant l'heure de retourner à mes affaires. « Alors, comme ça, on s'entendra. » Il étala sur le banc un journal qui, roulé tout à l'heure, formait un paquet assez volumineux contenant un morceau de pain, un peu de viande froide, des cornichons, du sel et un bout de fromage. Sous sa blouse, dans la poche de sa veste, il avait une bouteille de vin qu'il déposa à côté de son morceau de viande sur le papier servant à présent de nappe. « À votre service, » me dit-il en me désignant ses victuailles. Je le remerciai en lui souhaitant bon appétit. L'ouvrier mangea avec un empressement qui me fit voir que mon souhait se réalisait. Puis il saisit à pleine main sa bouteille. « Je vous offrirai bien de trinquer avec moi, monsieur, » me dit-il. « Mais malheureusement, je ne me sers pas de verre et vous serez obligé de boire au goulot comme moi. » Il me tendant sa bouteille. « Si toutefois, malgré cela, le cœur vous en dit, à votre santé. » Je le remercie encore, lui disant qu'ayant déjeuné, je n'avais ni faim ni soif. L'ouvrier, tout en me parlant de son usine, du beau temps, de la Seine, avala tranquillement son déjeuner, acheva sa bouteille. Il nettoya avec le papier le banc qui lui avait servi de table et de siège en même temps. Il remit dans la poche de son veston, sous sa blouse, sa bouteille vide et il s'écria joyeusement « Ah, maintenant le tour de la bouffarde. Il n'y a pas de bon déjeuner sans tabac. » J'ouvris mon porte-cigare pour lui en offrir un, mais il me remercia de mon obligeance, disant « Vous êtes bien aimable, monsieur, mais je ne fume que la cigarette, toujours la cigarette, la sempiternelle cigarette. » Je le regardai avec étonnement, et sans broncher, le bon ouvrier en produits chimiques ajouta, en tirant de sa poche un cahier de papier à cigarette, « J'ai là tout ce qu'il me faut. Papier et perlot, caperlot, le meilleur tabac, monsieur, quand on s'y connaît. » Il ouvrit ce cahier, colla par un coin sur sa lèvre inférieure une feuille de papier, puis, de la poche de son pantalon, il tira une blague en caoutchouc, puisa la quantité de tabac nécessaire et il reprit. « Oui, j'ai moi cette habitude qui est devenue une manie de ne pouvoir rien faire sans avoir une cigarette au doigt ou au bec. Et je ne répondrai pas que même en dormant je ne sois en train d'en fumer une. C'est assez dangereux pour votre lit. Ça, voyez-vous, monsieur, si jamais j'ai tombé à la Seine, et qu'on veuille me reconnaître, ça serait facile. Il n'y aurait qu'à voir si moi, même tourné au Maccabée, je résiste à l'appât d'une cigarette. Ça ne serait pas comme une histoire que je connais, où on a trouvé un bonhomme inconnu et il a fallu un tas de micmacs pour savoir que ce cadavre était celui d'un marinier qui tissait de l'osier. Je sursautais sur mon banc et je m'écriais « Mon cher, vous êtes merveilleux !»« Oui, mais vous, vous êtes imprudent !» me répondit-il vivement. « Cependant, quand on est ici pour m'attendre, qu'on vient au rendez-vous que j'ai donné, on ne doit pas sursauter quand on me voit et s'exposer à me faire reconnaître. Si dans le voisinage il y a des yeux qui sont postés pour cela, tâchez de rester tranquille, de ne pas bouger. Je fais mon possible. Bon, tout à l'heure, quand votre cigare sera fini, allez donc tranquillement voir si je suis réellement en train de fumer ma cigarette à l'amphithéâtre. » Puis il alluma sa cigarette à mon cigare et s'en alla, d'un pas traînant et un peu lent. Il sortit du square et traversa le pont et s'éloigna par les quais. Je le vis, peu après, au moment où je quittais moi-même le square, attablé devant la terrasse d'un petit marchand de vin, buvant son café avec deux ou trois ouvriers à grande blouse tachée comme la sienne, et qui probablement devait, comme lui, appartenir à une usine du voisinage. Ayant l'air de flâner, sans aller directement, mais comme par désœuvrement, je pénétrai peu après par une des portes qui donnent accès au public vers ce sinistre bâtiment où sont gardés, raidis par le froid, les cadavres des malheureux qu'on n'a pas encore reconnus à l'Institut médico-légal qui a remplacé l'antique et sinistre morgue. Quelqu'un me toucha le bras et me dit « On vous demande de greffe, monsieur Courville. Voulez-vous me suivre ?» C'était un des employés qui me précéda, m'ouvrit la porte menant au bureau de l'administration. Du greffe, on me conduisit peu après dans l'amphithéâtre en bas, où se font les confrontations, les autopsies, les études judiciaires, et l'on me fit asseoir sur un banc, me priant d'attendre. Pas même 5 minutes plus tard, la porte par laquelle j'étais entré s'ouvrit de nouveau. Je vis paraître un des employés de cette administration funèbre que suivaient 3 hommes, dont l'un portait une grosse serviette bourrée de papier. Ces hommes étaient habillés de noir. L'un portait une barbe en pointe, l'autre une barbe taillée en fer à cheval, et le troisième, sanglé dans une redingote très ajustée, avait des favoris qui lui couvraient les joues seulement, les fameuses côtelettes à la mode autrefois. Il gardait le menton glabre et offrait l'aspect du magistrat froid, implacable, correct, de l'ancien répertoire. La porte de l'amphithéâtre fut soigneusement refermée. Le magistrat ne disait rien. L'employé alors disposa le cadavre sur la table de marbre. L'employé se tint là. « Merci, » lui dit le magistrat au favori. L'employé ne bougea pas. « Ça va bien, » lui dit encore le magistrat. Comme l'employé ne faisait pas mine de vouloir encore bouger, le magistrat lui désigna la porte. « Vous pouvez vous retirer. »« C'est que, » fit l'employé, insistant, « je dois rester ici. »« Pourquoi cela ?»« Pour mon service. » »« Il finit là. »« Je dois quand même rester. C'est la consigne. » « Nous ne devons jamais abandonner les corps. » Le magistrat répliqua. « Nous représentons ici la justice. Nous savons aussi ce que nous devons faire. Veuillez vous retirer. » « Mes chefs m'ont commandé. Allez donc les trouver et dites-leur que c'est moi qui vous renvoie. »« J'y vais, monsieur, j'y vais. Parce que ma consigne me défend. »« Bien, c'est cela, allez, » dit l'homme au favori. « Je vous ferai savoir quand nous aurons encore besoin de vos services. » L'employé se retira, mécontent, en maugréant, suivi du regard par le magistrat. Le visiteur qui avait la serviette bourrée de papier derrière lui ferma très soigneusement la porte. Les trois hommes alors se réunirent et s'interrogèrent des yeux. « Singulière insistance, » fit le magistrat. « Pourquoi cet employé tenait-il tant à être là ?» Le magistrat, au favori, cependant, après un court moment de réflexion, ajouta « Nous verrons cela plus tard. » Puis se décidant, il tira son chapeau et vint le déposer sur le banc à côté de moi. J'assistais à toute cette scène, me demandant un peu pourquoi l'on m'avait conduit dans cet amphithéâtre sinistre, et pourquoi l'on me faisait assister à ce spectacle singulier. Chose bizarre, si la présence de l'employé était désagréable à ces trois hommes, la mienne semblait ne les gêner en rien. Le magistrat avait l'air vraiment de ne pas se douter que j'étais là. Pas une fois sur moi il ne leva les yeux, et pas une fois ceux qui l'accompagnaient ne tournèrent de mon côté leur regard. C'était à croire que j'étais devenu invisible. Mais c'était en vain. Il y avait quelque chose d'émotionnant dans cette scène muette, tragique, et dans ce lieu fantastique, car enfin, l'amphithéâtre n'est pas grand. Il était impossible qu'on ne vît pas que j'étais là, et nul ne semblait s'en douter. J'ai vécu quelques minutes d'un conte à Edgar Poe. Je devenais l'homme invisible. Je devenais le Maccabée enchanté. Et pour comble, voici que l'homme à la barbe blonde vint s'asseoir à côté de moi. Il me toucha presque du coude, et il fit comme s'il ne s'apercevait pas encore de ma présence. J'avais envie de lui envoyer une bourrade pour lui faire savoir que j'étais là, car enfin, il me tardait à présent d'être sorti de cette singulière invisibilité. Pourquoi, en effet, cet homme se trouvait-il à côté de moi et ignorait-il ma présence? Cependant, je restais là, les yeux agrandis par une sorte de terreur qui, malgré moi, m'envahissait, tandis qu'une forte oppression me serrait à la gorge. L'ambiance sinistre, cette table de marbre avec un cadavre raidi, ces trois hommes noirs qui ne parlaient pas et qui agissaient devant moi comme si je n'existais pas, tout cela était tellement fantasmagorique que je sentais peu à peu ma raison vaciller. J'en étais à me demander si vraiment je rêvais ou si j'étais l'objet d'une hallucination, d'un cauchemar, de je ne sais quoi enfin qui me conduisait fatalement à la folie. Puis, l'homme à la barbe pointue se leva, il quitta le banc où il se tenait à côté de moi. Il descendit dans l'amphithéâtre et alla rejoindre ses deux compagnons, le magistrat à côtelettes et l'homme à la serviette bourrée de papier. Tous trois silencieux se rangèrent autour de la table d'autopsie, cette table de confrontation où j'avais vu déjà, étendu, ce malheureux qu'on avait pris pour l'infortuné Éloi Vidal et qui fut reconnu ensuite pour le père Émile. Ils commencèrent à opérer une série de manœuvres, lentement, méthodiquement, silencieusement, agissant vraiment comme des fantômes vivants. Les yeux agrandis par une épouvante insurmontable, je regardais ce spectacle. Ces trois hommes remuaient tout lentement, tournaient autour de ce cadavre, de cette table sinistre, comme des ombres vraiment, sans bruit, sans parler, sans rien qui révélât leur existence d'homme, qui montrât que ce n'étaient pas des fantômes. J'avais envie de crier que j'étais là, pour me donner à moi-même l'assurance d'être vivant. Mais je sentais que, malgré moi, ma gorge était serrée, incapable d'émettre le moindre son. Je devenais, comme ces gens, aphone et comme le Maccabée, immobile. Les deux hommes, l'homme à la barbe pointue et celui qui avait la barbe en fer à cheval, se penchèrent sur le cadavre du malheureux. Ils posèrent leurs mains sur la tête du cadavre. Je les vis essayer de tirer lentement, doucement les chairs, d'écarter les lèvres, s'arranger de façon à tenir la bouche ouverte. Alors, l'homme au favori s'approcha lentement, automatiquement, il se courba et se pencha sur cette tête sinistre et regarda dans cette bouche qu'on venait d'ouvrir. Il introduisit encore ses doigts dans les dents et examina longuement la mâchoire. Puis, après avoir fait un signe de tête, il s'écarta, abandonna les dents, la mâchoire, les lèvres du cadavre et se tint auprès de la table. Les deux autres hommes alors commencèrent une nouvelle et tout aussi émotionnante manœuvre. Ils tirèrent avec des soins infinis, doucement, avec les précautions nécessaires pour ne pas briser le membre glacé, une des mains du cadavre, la main gauche, et la mirent un peu en avant vers le rebord de la table sinistre. Quelle singulière besogne pouvait-il bien faire? Dans quel but? Je n'y comprenais rien du tout. Je regardais, attiré malgré moi par tous ces mouvements d'une lenteur excessive, ne pouvant détacher mes yeux de cette table effroyable, n'y deviner rien. Puis, lorsque ces hommes eurent ainsi séparé du corps cette main, Lorsqu'ils l'eurent étendu, allongé sur le marbre, ils s'en écartèrent. L'homme au favori du magistrat, qui s'était tenu un peu en arrière alors, s'approcha de nouveau. Dans la main, il tenait quelque chose de brillant, que je ne reconnus pas tout d'abord. Était-ce un outil de dissection, un scalpel, je ne savais. Il se pencha sur cette main, l'examina longtemps, demeura ainsi penché. Tout à coup, une voix froide, coupante, tranchante comme une lame de couteau, retentit dans ce silence. « Venez donc voir, Courville !» Il me sembla que je recevais un coup sur la nuque. Je fis, malgré moi, un bond en avant, je me levai et je retombai assis sur mon banc. « Prenez garde à mon chapeau, malheureux !» s'écria sur un ton tout différent alors cette voix tragique. Cette fois, j'éprouvai un soulagement qu'aucune description ne peut rendre. Je ne sais si je suis parti d'un éclat de rire ou si j'ai eu un accès de larmes. Je ne me souviens plus de rien. Je sais que mes nerfs se détendirent alors, qu'il me sembla que d'un pays fantastique, je retombais sur la terre, et que tout à coup je recouvrais l'usage perdu de mes membres gelés, glacés, impropres à tout service humain. Enfin, je parvins à recouvrer une respiration normale, à y voir clair, à me sentir vivre, à savoir me conduire. Et m'étant ressaisi, je finis par pouvoir descendre les marches qui, de mon banc, menaient jusqu'à la table funèbre, et je m'écriai « Martin Numa, Prosper, Philippe !» J'avais enfin reconnu le roi des détectives et ses deux lieutenants. Eux demeuraient toujours impassibles, toujours immobiles, et maintenant semblaient des figures d'un musée de cire, mais ils me regardaient, et dans leurs yeux je voyais une sympathique ironie. Quant à Martin Numa, lui, il souriait, dans ses favoris de magistrat classique. Mon pauvre Courville, me dit-il, que je vous cause d'émotion aujourd'hui. Je vous fais déjeuner de meilleure heure, je vous fais trinquer avec un ouvrier au square Notre-Dame, et je vous amène ici où vous avez vécu, je le gage, un cauchemar terrible. Oh, épouvantable! Il faut vous aguerrir, mon vieux. Voyons, voyons, un garçon comme vous, qui m'a déjà suivi dans tant d'expéditions. Un reporter habitué à se trouver dans tous les milieux, à toute heure du jour et de la nuit, pour les pires événements, à ne jamais avoir de surprise, ne doit pas se laisser aller à des émotions pareilles. C'est qu'ici, dans ce cadre sinistre, il doit bien savoir que même ici personne n'est enchanté, qu'il n'y a rien de fantastique. Je le sais, mais votre façon de faire, vos allures mystérieuses, les hommes les plus singuliers, les plus bizarres, les êtres les plus inattendus, du moment qu'ils bougent, sont bien vivants, il faut les regarder avec des yeux calmes, impassibles, et attendre la suite des événements. Puis, me tendant la main, « Mon cher approché, vous allez savoir pourquoi nous sommes venus ici et pourquoi nous nous trouvons en présence de ce macabre mystérieux. » Et il me demanda, « Le reconnaissez-vous ? » Puis il s'empressa d'ajouter en souriant, « Je ne vous demande pas cela, mon cher ami, parce que je suppose que c'est une de vos victimes. » En vous demandant si vous le reconnaissez, je veux simplement vous demander non pas si c'est vous qui l'avez tué, mais si vous l'avez déjà vu ailleurs qu'ici. Je regardais le cadavre. Il était épouvantablement défiguré. Il portait la trace de blessures effroyables. C'était un corps absolument broyé. Cependant, je crus le reconnaître et je déclarai. Mais ce n'est pas l'homme de l'Hôtel Dieu ? Celui qui prononça les fameux « dal, dal, ta, ta, tout ». Martin Numa me dit « Je suis content, mon cher Courville, de voir que vous êtes ressaisi et que vous voilà maître de tous vos moyens. Votre mémoire est revenue. Et vous avez reconnu en effet notre homme de l'Hôtel Dieu. C'est bien lui. » Il tourna vers moi ses yeux gris et reprit « Je vous ai prié de venir parce que j'espère que vous assisterez à quelque chose d'intéressant. Je vous en suis reconnaissant, mais j'avoue, sans fausse honte, que c'était déjà très palpitant pour moi. J'ai déjà goûté une forte dose d'émotion. Eh bien maintenant, j'espère que vous aurez d'autres surprises, toutefois de nature différente. » Et il me demanda, « Savez-vous ce que nous sommes venus faire ici, tous les trois, aujourd'hui ? Ma foi, je ne devine pas. » « Eh bien, mon cher, nous sommes venus demander à ce malheureux, qui a tant de mal à parler, de vouloir bien aujourd'hui, devant nous quatre, nous dire comment il s'appelle vraiment. » Lui demander son nom, son âge, son lieu de naissance, enfin tout ce qui le concerne. Cette fois, je regardais Martin Numa, me demandant si l'hallucination de tout à l'heure n'allait pas reprendre. Mais les yeux du détective étaient redevenus impassibles, son visage était de marbre. De nouveau, Il se pencha sur le cadavre et je vis alors que ce qu'il tenait à la main était sa fameuse loupe. Avec cette loupe, il examina la main du cadavre, étudia doigt par doigt, s'arrêtant longuement à chaque ongle. Puis se relevant, il dit « Il n'y a pas d'erreur possible, les ongles portent bien la marque révélatrice ».